Et c'est l'heure de l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Hirung.
Bonsoir. Assemblée nationale, à l'issue du débat d'hier sur le projet de loi portant organisation des élections en RDC, des divergences ont été observées sur plusieurs questions, notamment le mode de scrutin, le niveau d'études des candidats et l'élection des communes de Kinshasa en circonscription électorale. Quel devrait être le mode de scrutin, le niveau d'études des candidats aux prochaines élections? Nos invités dans cette émission sont Aubin Minaku, député national de la majorité présidentielle et vice-président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Honorable Minaku, bonsoir.
Bonsoir.
Dili Sissanga, député national de l'opposition et président national du mouvement d'action civique dénommé Ensemble de volontaires pour le développement de la RDC en vol. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Professeur Emmanuel Kasungu, professeur à la faculté des sciences sociales, administrative et politique de l'Université de Kinshasa. Il est également consultant et formateur en matière électorale. Le professeur Emmanuel Kasungu, bonsoir.
Bonsoir.
Vos réactions, nous les avons déjà. Jacques Kasungu de Bukavu Sud, Kivu, avec tous les désordres qui ont élu domicile dans le système national d'éducation en RDC, j'estime que la condition du niveau d'études ne vaut rien. Djedali Koumou de Ouacha en province orientale, il faut tenir compte du niveau d'études car sans bagage intellectuel, les députés ne seront là que pour gonfler l'Assemblée sans rien faire. Bienvenue à tous dans votre émission. Voilà, nous le disions tantôt à l'Assemblée nationale, à l'issue du débat d'hier sur le projet de loi portant organisation des élections en RDC, des divergences ont été observées sur plusieurs questions, notamment le mode de scrutin, le niveau d'études des candidats et l'élection des communes des Kinshasa en circonscription électorale. Avant de donner la parole à l'honorable Minaku, juste signaler que suite à un problème technique, un problème d'informatique, il sera très difficile d'avoir des éléments sonores dans cette émission. Honorable, avec vous, quel est votre point de vue sur le mode de scrutin?
Bon, merci de la question. Le mode de scrutin, je crois que c'est une disposition essentielle en ce qui concerne ce processus de révision ou de modification de la loi électorale. Nous sommes partis du vécu de 2006. Nous sommes partis de ce vécu parce que, comme nous le savons tous, il nous a été appliqué la proportionnelle à plus fort reste. Nous avons été élus, l'Assemblée nationale compte 500 députés, et étant une jeune démocratie, à l'instar de toutes les vieilles démocraties qui ont eu à évaluer chaque fois leur système électoral, nous avons, nous, de la majorité, notamment par le biais du gouvernement qui est émanation de la majorité, proposé le scrutin mixte, qui signifiait, dans un premier temps, que un parti qui, dont la liste obtenait la majorité absolue de voix de suffrage, prenait tous les postes, tous les sièges. Sept sièges, par exemple, à la circonscription d'Idiofa, le PPRD a plus de 151 000 voix, il reste tous les postes. Si aucun parti n'obtient cette majorité absolue, alors le partage est fait selon la règle de la proportionnelle. Nous avions, le gouvernement avait aussi proposé un système d'apparentement entre partis politiques alliés. Cela a été rejeté. Et nous, aujourd'hui, nous en sommes à un mode proportionnel avec un seuil de 10%. Quel est l'avantage? Pourquoi j'appuie ce mode? C'est tout simplement parce que la proportionnelle intégrale a généré beaucoup de cas d'injustice. Dans une même circonscription électorale, un candidat à 26 000 voix n'est pas élu, un autre a eu plutôt 9 000 voix est élu. Donc tout en préservant la nécessité de faire participer toutes les tendances politiques à l'exercice du pouvoir délibérant à l'Assemblée nationale, il fallait aussi y mettre un peu d'équité. C'est de cette façon-là qu'une jeune démocratie se construit. Voilà pourquoi je crois que le scrutin proportionnel avec un seuil de 10% est approprié. J'aurais dû rejeter ce seuil s'il était proche de 50%, parce qu'à ce moment-là, on aurait dit que nous avons imposé le système majoritaire sans le dire, mais évoquer aussi soutenir un seuil en deçà de 10%, ce serait mettre en place un système proportionnel intégral sans le dire. Et cela est décrié par le mental de la population congolaise.
Mais toujours à l'Assemblée nationale, honorable, il y a une frange de députés qui considèrent que 10% c'est trop et que ce serait exclusif, mais il y a au monde des pays tels que l'Allemagne où dès qu'un parti n'a atteint que les 5% par exemple des suffrages exprimés, il fait déjà son entrée au Parlement. 10% n'est-ce pas trop, n'est-ce pas exclusif?
Non, je crois qu'en Allemagne, le taux de 5%, c'est par rapport aux partis qui sont éligibles à un soutien, un appui financier de l'État. Le taux n'est pas exclusif. Mais avant de répondre à votre question, il y a un préalable important, puisque j'ai répondu à cette invitation pour être franc vis-à-vis de la population. Nous éduquons la population, il faut la transparence. Le problème au niveau de l'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est que cette loi est en train d'être débattue à quelques mois des élections, puisqu'il y aura nécessairement, il y aura élection le 28 novembre 2011. Et aujourd'hui, face à cette réalité, à cette contrainte vitale quelque part, très peu de députés se départissent de leur propre stratégie électorale pour ériger, plutôt mettre en place une loi, parce qu'une loi doit être impersonnelle, générale, abstraite et contraignante, évidemment. Pour qu'elle soit générale, impersonnelle, abstraite, lorsque il est question de croiser les intérêts électoraux individuels des députés, c'est très difficile d'aboutir à une loi qui remplisse ces critères. Voilà la difficulté. Le seuil,
comme ceux du PTRD d'ailleurs,
je parle des députés de façon générale. Très peu ont des difficultés pour se départir de leur propre stratégie électorale personnelle.
Professeur Emmanuel Kassongo, vous êtes professeur à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université de Kinshasa, également consultant et formateur en matière électorale. Quelle est votre analyse par rapport à la proposition de l'honorable Minaku qui soutient le seuil de 10%?
Écoutez, merci d'abord pour m'avoir invité à cette émission. Moi, je pense que tout dépend de l'intention qui se trouve derrière cet amendement de la loi électorale. Si cela est fait pour corriger des erreurs de la législature qui s'achève, pour essayer de donner aux partis politiques une espèce d'orientation et d'effort, de performance dans la mesure où ces critères va donner matière à mobilisation et à réflexion pour les partis politiques, c'est de se concentrer et d'atteindre, n'est-ce pas, cette proportion. Je crois que ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Mais ce qu'il faut éviter, ce sont les effets sociologiques de l'application et l'extension de cette loi, dans la mesure où on n'est pas sûr que ceux qui seront exclus ou qui auront perdu leur rôle, voix ou le nombre de députés pour n'avoir pas atteint la proportion de 10% peuvent constituer une masse de mécontents par rapport au processus électoral. Je crois que là, on n'aura pas résolu les problèmes. Donc, tout est question de l'intention qui est derrière cet amendement de la loi électorale. Voilà.
Alors, professeur, qu'est-ce que vous voulez dire clairement quand vous parlez des faits sociologiques?
C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que la loi soit adoptée par une majorité pour qu'elle soit acceptée d'office par les autres. Évidemment, c'est la démocratie, c'est la loi de la majorité. Si on établit le seuil à 10%, c'est clair que beaucoup de partis ne pourront pas atteindre cette proportion et ils vont se faire éliminer de la compétition électorale. Ils vont être sans députés à l'Assemblée nationale ou dans les assemblées provinciales. Et donc, ils peuvent se comporter ou se regrouper en même comptant, cela n'est pas sans impact sur le fonctionnement des institutions. Du fait, du moins sur le plan sociologique. Mais sur le plan juridique, bon, je crois que lorsque la majorité aura adopté cela, ça deviendra difficile de revenir à l'arrière de cela.
Mais, professeur, vous avez suivi l'honorable Minaku qui a dit qu'un seuil en deçà de 10% serait devenir carrément la proportionnelle intégrale.
Oui, ça dépend. Parce que, est-ce qu'on veut résoudre tout de suite un problème qui s'est posé la fois passée ou bien on peut aller graduellement? Parce que nous connaissons la constitution de nos partis, nous connaissons les faiblesses et leurs capacités. Et que si un parti peut être content d'être dans le processus, il n'existe rien de plus qu'un député au niveau de l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée provinciale, c'est quelque part une visibilité sociologique pour ce parti-là qui se croit être maintenu et être dans l'activité politique, quoi. C'est ça.
Mais professeur, il y a plus de 300 partis politiques. N'est-il pas temps de clarifier le système des jeux au niveau des partis, éliminer par exemple les partis des mallettes, les partis des familles, et laisser les véritables partis qui ont une représentativité sur le terrain?
Mais justement, la proportionnalité est l'une des stratégies permettant à ce que les partis qui ne vont pas atteindre ce seuil, c'est l'une des mêmes. Mais, écoutez, là aussi, on s'en fait trop de ces partis mal-être. On sait déjà que sur le terrain, ils ne sont pas actifs. Et donc, ce n'est pas un problème pour un pays. Même s'il y en a 300, mais on sait combien sont effectivement opérationnels sur le terrain, combien sont capables de faire élire des députés. Voilà.
Alors, professeur, quel pourrait, avant de donner la parole à l'honorable Minaku, quel pourrait être, d'après vous, le mode de scrutin qui conviendrait à notre contexte aujourd'hui?
Bon, écoute, il faut dire déjà que le scrutin passé n'est pas du tout mauvais. Hein, le système qu'on a installé à la loi électorale passé n'est pas du tout mauvais. Et donc, il est à 80% bon. Je crois qu'il faut partir de ce qui a été fait à la première législature finissant pour corriger. Je pense pas que tout ce qui a été fait est mauvais, franchement.
Honorable Minaku. Oui, merci. Je crois que par rapport à l'intention, nous de la majorité, puisque cette loi émane de nous, l'intention c'est tout simplement corriger les défauts, les déficits de la loi passée, tout simplement.
Mais il y a même des divergences au sein de la majorité.
Oui. L'intention de la majorité, c'est celle-là, mais évidemment, la majorité étant constituée de démocrates, chacun est libre. Parce que quel que soit le mode de scrutin, un parti politique, un regroupement politique qui respecte, trouve l'antidote, si je peux m'exprimer comme un médecin, trouve l'antidote de ce mode de scrutin. Même concernant la proportionnelle intégrale, nous avons l'antidote de ce mode de scrutin pour 2011. Donc là n'est pas le problème. L'essentiel, c'est d'améliorer le mécanisme, les différents mécanismes électoraux, pour que les élections soient plus correctes et plus justes. Et ainsi, je dirais, la question la plus pertinente, c'est celle de se poser si le fait pour un candidat d'obtenir 26 000 voix et d'échouer, alors que dans la même circonscription, un autre qui n'a eu que 8 000 voix passe. Est-ce de l'équité? Est-ce juste? Ne pouvons-nous pas améliorer cette situation? La réponse est généralement positive. Et quels sont les mécanismes pour améliorer cette situation d'injustice? C'est notamment à travers la proportionnelle. Et là, il y a eu un débat quant au seuil 5-10%, etc. Je vous ai démontré qu'en deçà de 10%, c'est imposer la proportionnelle intégrale sans le dire, et bien au-delà de 20%, c'est mettre en place la majorité absolue sans le dire. Voilà pourquoi 10% c'est le juste milieu.
Honorable Sessanga, bonsoir.
Bonsoir.
Vous venez de faire votre entrée dans ce studio. Je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et président national du mouvement d'action civique dénommé Ensemble de volontaires pour le développement de la RDC. Nous avons commencé notre débat par le mot de scrutin. L'honorable Minakou pense que la proportionnelle avec un seuil de 10% est le mot de scrutin qu'il convient. Quel est votre avis à ce sujet?
Non, je pense d'abord que le mode de scrutin que nous avons eu en 2006 répondait à un objectif politique. Il s'agissait d'assurer la réconciliation nationale, de permettre l'inclusivité, d'éviter l'exclusion dans la vie politique et de favoriser ainsi la mise en œuvre de ce que nous avions adopté au niveau de l'USACA, c'est-à-dire recréer un État, mettre en place la justice, remettre la décentralisation, créer une armée, créer une police qui fonctionne. À ce jour, et vous avez bien suivi les incidents qui sont arrivés avec le déplacement du ministre Machako dans l'est du pays, en dépit de tout ce que l'on peut dire, l'insécurité règne, la justice n'est pas revenue, la décentralisation est toujours menacée, et donc nous avons un besoin beaucoup plus important de pouvoir réaliser les aspects sur lesquels toutes les forces politiques de ce pays ont établi un consensus depuis Sun City, depuis la conférence nationale jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pourquoi le mode de scrutin proportionnel a été établi. Lorsque l'on propose maintenant de modifier le mode de scrutin, on doit pouvoir nous signifier pourquoi on le fait, étant entendu que sur ces grandes questions, la majorité a largement été à côté de la plaque, elle a complètement échoué. Et donc, le besoin de consensus, le besoin qui a prévalu en 2006 pour faire ce mode de représentation proportionnelle, valent toujours. Ceci dit, dans les propositions qui sont faites de pouvoir avoir un seuil discriminant à 10%, nous allons publier dans les jours qui viennent une simulation et une étude réalisée sur base des données sociologiques de la sociologie électorale de 2006. Et vous vous rendrez compte que, d'abord, les principes qui sont proposés sont discriminatoires parce que simplement 11% des listes sont en mesure de pouvoir atteindre ce seuil-là, alors que nous avons besoin d'une plus grande participation. Ça, c'est la première indication. La deuxième indication, c'est que dans les circonscriptions à un siège, qui sont déjà majoritaires, qui représentent environ 81, je crois, sur les 500, on en a 71, je crois, qui sont scrutins majoritaires. Quand vous allez dans les scrutins, dans les circonscriptions à deux sièges, vous allez voir que le mot de proposer revient pratiquement à appliquer avec la règle de la prime à celui qui atteint le seuil tout seul, à appliquer le mode majoritaire. Et quand vous allez maintenant, l'inconvénient que vous retrouvez aussi dans les circonscriptions à 4, 5, 6 sièges, c'est que ce système ne s'applique pas. Pourquoi? Parce que quand vous dites que dans une circonscription où il y a plusieurs listes qui atteignent 10%, on applique la proportionnelle limitée à ces listes-là, il y a des circonscriptions, par exemple, vous prenez les données sur les territoires comme Tamonia, vous prenez des territoires comme Djougou, vous allez remarquer que les deux listes ou les trois listes qui restent, quand ils ont consommé les sièges qui leur reviennent à la moyenne, au plus fort reste, ils n'ont plus suffisamment de voix pour pouvoir consommer les autres sièges. Et donc nous disons que les objectifs politiques que nous nous étions assignés en 2006 se poursuivent et on a besoin encore de pouvoir les appliquer. Et personne ne peut les nier aujourd'hui, les faits nous donnent raison. De l'autre côté, il ne faut pas chercher par la modification, la manipulation du système électoral à compenser les faiblesses politiques des partis politiques, les compenser les faiblesses des organisations qui ont eu à diriger le pays. Je rappelle que la majorité actuelle contrôle l'Assemblée nationale, le Sénat, les 11 provinces du pays. Donc on ne peut pas poser la question en termes, si vous voulez, de majorité qui aurait manqué ou qui aurait apporté une crise quelconque pour empêcher le gouvernement de pouvoir être dirigé. Donc le problème est ailleurs, il ne faut pas pouvoir les déplacer. Nous avons besoin d'assurer une plus grande représentativité. Et par rapport à l'argument qui est avancé par l'honorable Aubin Minakou, il faut savoir que, y compris dans le système qui est proposé, il y a des candidats qui ont beaucoup de voix, qui restent quand même en dehors de ceux qui sont élus. Donc, on ne retrouve pas totalement.
Alors, c'est quoi l'idéal? Quel est le seuil idéal?
Non, la question ne se pose pas en termes de seuil. Il ne faut pas commencer à parler du seuil comme si c'était l'alpha et l'oméga. Donc, au départ, la majorité est partie de l'idée qu'elle allait avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Elle est partie de l'idée qu'elle allait gagner l'élection présidentielle au premier tour. On a modifié la Constitution pour qu'il n'y ait plus qu'un seul tour. Cette modification, tout en étant légale, mais posant quelques problèmes politiques, a été admise. Donc nous pensons que la loi électorale devait être modifiée quant à ce. En ce qui concerne maintenant le mode de scrutin, c'est parce que la majorité se rend à l'évidence qu'il est difficile, et c'est une sociologie de ce pays, qu'un seul parti, un seul bloc, puisse contrôler la majorité au niveau de l'Assemblée. Donc il faut un gouvernement de coalition. Mais ça, c'est la faiblesse encore des partis politiques qui doivent se construire, et il faut prendre cela dans le temps. On ne peut pas les compenser par des lois qui sont adaptées à tel ou tel contexte. Vous savez, Cardinal de Richelieu, qui est un personnage pour qui j'ai beaucoup d'estime dans l'histoire, disait « on ne change pas l'éthique à coup de signature ». Donc, ce n'est pas parce qu'on va changer une loi que les mœurs politiques, que l'éthique politique dans ce pays va changer. Donc, pour nous, on doit pouvoir conserver le système de 2006 parce que ce système n'a pas épuisé encore l'objectif politique pour lequel il a été créé. Par ailleurs, au cours des 5 prochaines années qui viennent, j'espère que sur le projet où nous avons réuni un peu plus de consensus, nous serons beaucoup plus avancés pour permettre d'autres réformes en ce qui concerne le mode de scrutin.
Voilà, nous passons maintenant au niveau d'études, qui aussi a fait l'objet de discussions. Professeur Emmanuel Kassongo, qu'est-ce que vous pensez du niveau d'études des candidats?
Merci, je pense que c'est une question qu'on doit traiter avec une certaine relativité, donc rejeter tout absolutisme, parce que on est là devant une question de souveraineté populaire, c'est-à-dire que défendait Jean-Jacques Rousseau, qui est représentation populaire, n'est-ce pas? Le peuple confère son mandat à un député et qu'il rencontre à tout moment. Et donc, en vertu de cette théorie, des représentations populaires, mettre une barrière ou bien des critères sévères en ce qui concerne le niveau d'études, risquer quand même d'ouvrir, c'est qu'ils n'ont pas, parfois dans les circonscriptions, un universitaire, un docteur, mais qui ont, n'est-ce pas, un expérimenté, qui a un certain niveau d'études, mais qui peut valablement le représenter tel que référait un universitaire. Évidemment, il faut dire que je n'ai pas encore lu la loi, elle est en discussion au Parlement, mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'on ne peut pas continuer à accepter que les incompétents, disons, je prends ça comme ça, Je ne vois pas ce qui est au niveau des études, mais je vois ça au niveau de la compétence. Que les compétents commencent à représenter le peuple. Et là, c'est une question aussi devant laquelle les partis politiques sont devant un défi aussi, parce que c'est aux partis politiques de sélectionner les candidats qui doivent représenter leur parti. Et donc, je crois que si on peut combiner le critère de formation au niveau d'études et l'expérience éprouvée et les compétences, je crois qu'on n'officierait pas sur ces représentants du peuple qui pourraient bien le faire, mais dont l'université, par exemple, ferait défaut. Ça, c'est le premier raisonnement. Le deuxième raisonnement, je suis moi-même professeur d'université, donc j'encourage l'excellence et la formation. Mais on doit aussi se mettre à l'esprit que le monde évolue et le niveau de formation aussi évolue. Il y en a qui n'ont pas un niveau d'études universitaires, mais qui ont eu des formations continues. Souvenez-vous, par exemple, je vais donner la situation de l'École nationale de finance. On a fait 2 ans d'études universitaires, si je peux dire, ou post-secondaires. Et ces gens qui ont suivi la formation en matière des impôts, des budgets et des taxes douanières, qui n'ont pas un graduat, mais qui ont une expérience à gérer en cette matière. Et donc, si vous mettez une barrière de gradués, vous allez exclure toute cette bonne phase d'intellectuels compétents à la compétition. Ça, c'est le premier raisonnement. Deuxième raisonnement, le député national n'est pas intégré de l'administration. C'est-à-dire qu'on accepte qu'il faut un minimum de formation. Et notre système éducatif est tel que, dans des conditions normales, avec une formation normale, un D4, on l'a vu, ils ont eu une expérience politique et ils ont été les premiers pionniers de l'indépendance. Ils ont bien fait, on doit les reconnaître pas. Mais aussi, il y a, je dirais, comment on peut les appeler, ceux qui sont des centres de formation professionnels, hein, qui ont aussi une expérience dans leur domaine. Et la logique du fonctionnement du Parlement est que un député qui n'est pas là pour venir brandir son titre académique, mais pour représenter le peuple, participer au débat avec efficacité et compétence, doit réunir effectivement les deux éléments formation et compétence.
Merci, professeur. Honorable Minako, évoquer le niveau d'études n'est-il pas violer l'article 13 de la Constitution qui dit qu'aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une discrimination, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif en raison de sa religion, etc. Oui, il y a débat à ce propos. Je pense qu'on va énerver, sinon corrompre l'esprit de cette disposition, surtout qu'il s'agit des institutions délibérantes. Mais j'aimerais en une minute donner mon point de vue à ce sujet, avant d'évoquer quelques points importants en 2-3 minutes concernant le seuil passé capital. Diplôme et expérience professionnelle, c'est ce qu'on a retenu. Soit le diplôme, soit l'expérience professionnelle avérée en matière politique, économique et commerciale. Moi, je crois qu'en réalité, on n'a presque rien fait. Parce que l'expérience professionnelle de 5 ans, comment on va déterminer cette expérience professionnelle en matière économique, commerciale et tout, en exigeant soit le diplôme, soit l'expérience professionnelle. Je crois que nous avons déjà vu pareille disposition par le passé. Il est vrai que l'essentiel, c'est de booster le niveau d'analyse dans les institutions délibérantes de la République, notamment l'Assemblée nationale. C'est ça l'essentiel. Et c'est pourquoi on a tendance à exiger un diplôme. Mais bien au-delà du diplôme, je ne rejette pas de l'expérience professionnelle, je ne rejette pas d'emblée, je crois que le plus grand problème est d'ordre moral et éthique. Parce que les gros de problèmes que nous avons connus au niveau, notamment de l'Assemblée nationale, c'est d'ordre moral éthique. Je donne un exemple, la plénière d'hier. La plénière d'hier, il y a des députés, des amis, que je respecte beaucoup, heureusement que bon nombre d'entre eux ne sont pas de ce registre-là, qui sont venus affirmer haut et fort que la plénière n'avait jamais levé l'option du seuil, et qu'il était plutôt question de réfléchir sur le niveau du seuil. Alors que, pendant la plénière, j'étais sorti pour suivre les cassettes et tout, c'était bel et bien retenu comme option. Ça, c'est des petites questions d'éthique, de morale. Il y a plus grave que ça. Donc, au-delà du débat sur le diplôme, le niveau d'éthique, il faut que nous puissions mettre en branle tous les mécanismes pour qu'en amont, c'est-à-dire lorsque nous étudions, lorsque nous sommes éduqués en famille, et en aval à travers des mécanismes de coercition, de punition, que nous puissions relever le niveau éthique et moral de la République. Par rapport à la première question, on revient souvent sur le consensus de Pretoria, de San Francisco jusqu'aujourd'hui. Ce consensus a été cristallisé par les élections de 2006 qui ont mis en place des institutions et par la constitution actuelle. La constitution cristallise ce consensus. Et la constitution actuelle donne le pouvoir de vouloir à la majorité actuelle. Suivez l'actualité en France,
la majorité peut proposer une révision de la loi électorale. Il n'y a pas de honte à faire ça. Ce n'est pas pour compenser les faiblesses. C'est d'ailleurs dans les us et coutumes de tous les systèmes démocratiques. Ce n'est pas pour compenser les faiblesses, c'est pour corriger les erreurs. Merci. Mais la réalité, c'est qu'il y a des jeunes partis qui viennent de se créer, qui ont le droit d'avoir des députés, qui, normalement, de bonne guerre, peuvent ne pas soutenir le seuil, mais il y a aussi d'autres partis qui, pour l'intérêt de la consécration de la démocratie, soutiennent le seuil. C'est un débat politique.
Voilà, vous
tout simplement.
Pouvez dire l'honorable Sessanga. Honorable, vous direz également un mot là-dessus. Mais parlons du niveau d'études. Quel est votre point de vue?
Je vais dire d'abord que je suis d'accord avec l'honorable Aubin Minakou, qui est une personnalité pour qui j'ai beaucoup d'estime dans cette assemblée, en dépit de nos divergences, quand il parle de l'éthique. Mais la question d'éthique ici, il devait la ramener au vrai niveau. Lorsqu'il a été question de voter les options au niveau de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale n'a pas proposé à la plénière de pouvoir adopter clairement les options, et il le sait très bien. Et donc, dans la confusion générale, où il y avait une volonté qui s'exprimait, le président n'a pas voulu laisser s'exprimer de manière formelle, on est allé d'une confusion à une autre, et on veut ramener. Aujourd'hui, la majorité dans la Chambre est telle. Ça aussi, c'est une question d'éthique. Et c'est pourquoi je dis, j'en viens à cette question du niveau d'études. Je crois que la question essentielle, et là je suis d'accord avec lui, c'est une question de niveau d'instruction générale. Quand on dit niveau d'instruction, cela implique le niveau de l'électeur, le niveau des élus. On voit souvent les professeurs de droit qui violent la loi. On voit les médecins qui eux-mêmes n'observent pas leur éthique. On voit des avocats qui ne respectent pas leur déontologie. Et donc, le problème dans ce pays est un problème d'éthique. Or, comment on résout un problème d'éthique? La question, ce n'est pas tant la formation. Ce n'est pas tant de dire qui a le diplôme, qui ne l'a pas. Encore que les diplômes en question ne valent pas parce que de plus en plus, dans ce pays, on a délivré des diplômes dans un univers de corruption généralisée où il est très difficile de pouvoir certifier la qualité de ceux qui sont formés. Je pense, et c'est ce que nous faisons au niveau de l'envol, c'est de pouvoir combattre l'ignorance qui est un des piliers de la dictature pour faire en sorte que le niveau général d'instruction de la population puisse augmenter. Mais c'est un processus que l'on va avoir dans le temps. Je pense cependant que nous avons un défi à relever. Le défi est lequel? La plupart des problèmes que vous avez aujourd'hui sont des problèmes complexes. Ce sont des problèmes qui sont liés à la compréhension des enjeux au niveau international, au niveau sous-régional et au niveau mondial, et qui changent trop rapidement et qui nécessitent que ceux qui servent l'État puissent avoir non seulement le sens de l'État, mais une mobilité intellectuelle qui leur permette d'aborder ces questions efficacité. Et donc, c'est une question d'efficacité. Or, la question d'efficacité dans une démocratie, vous la touchez lorsque vous avez amélioré le niveau d'instruction à la base. Et en même temps, puisque nous devons rattraper le retard dans ce pays, nous avons connu beaucoup de conflits et beaucoup de problèmes, il faudrait avoir une assemblée qui comprenne. Or, là, ce qui décourage, c'est que le plus souvent, le plus qualifié d'entre nous, les docteurs, les professeurs et tout ça, sont aussi ceux qui sont moralement parfois le plus corrompu. Et donc, je veux dire, quand je dis corrompu, c'est pas souvent toujours acheté dans quelqu'un que l'on achète avec l'argent, c'est quelqu'un qui corrompt le principe qu'il a étudié. Les Congolais sont des gens qui ont beaucoup de connaissances, mais qui manquent le savoir-faire qui permette à ce que ces connaissances soient transformées en quelque chose d'utile pour leur communauté.
Alors, concrètement, on aura
utile pour eux-mêmes et pas pour les autres.
Donc, je dis ceci en ce qui concerne le niveau d'études.
Je pense que la proposition qui a été faite de pouvoir commencer à mettre les niveaux d'études corrige une des erreurs que nous avons mises dans la Constitution de 2006. Nous ne pouvons pas ériger l'ignorance en principe de gouvernement. Mais en même temps aussi, il ne faudrait pas non plus qu'on puisse restreindre trop les choix de nos concitoyens. Quelqu'un qui travaille dans le domaine social et qui est de la population et qui connaît les problèmes de la population peut pouvoir, à un moment donné, mieux incarner ses leaderships qu'un intellectuel qui est un intellectuel de bureau et qui est très loin, parfois, des problèmes de nos concitoyens. Il faut trouver le juste milieu. Et la formulation qui a été trouvée, à mon avis, est un juste milieu. Parce que la crainte que nous avons dans ce pays, c'est que quand vous n'avez pas d'État, quand vous n'avez pas d'administration, les politiques font office à la fois d'État
et d'administration. Et la responsabilité de la majorité, je suis toujours appelé à y revenir parce qu'ils ont géré le pays pendant 5 ans, c'est que pendant les 5 ans, ils n'ont pas fait preuve, non, ils n'ont pas géré avec nous, ils n'ont pas toujours fait preuve d'une très grande éthique dans la sélection de ceux qui doivent servir l'État. Je crois qu'on doit servir son État avec beaucoup de sens du devoir et beaucoup d'abnégation et choisir les hommes qu'il faut et les mettre à la place qu'il faut. Et la majorité nous a habitués souvent à choisir des dormeurs là où il fallait pouvoir travailler, et la République recule pour cela. Et ça, c'est bien dommage, et c'est de leur responsabilité.
Voilà, il faut toujours souligner qu'il faut nuancer les propos. Vous avez même suscité la réaction de l'honorable Minako. Professeur Emmanuel Kassongo, je rappelle que vous êtes professeur à la Faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université de Kinshasa, également consultant et formateur en matière électorale. Professeur, abordons maintenant la question qui concerne l'érection des communes de Kinshasa en circonscription électorale. Professeur, quel est votre avis à ce sujet?
Merci, mais permettez un peu de revenir en arrière par rapport à ce qu'a dit l'honorable M. Sanga, que je respecte beaucoup et qui était notre directeur éprouvé. C'est que lorsqu'il doit parler de la formation au pays, des diplômes, et lorsqu'on présente son propre pays comme un pays où la corruption est évidemment de gouvernance, donc c'est quelque part j'essaie de faire l'autoflagellation et j'essaie de prendre sur les efforts que nous déployons pour former la jeunesse de ce pays. Si vous regardez un peu, lorsque vous allez dans les secteurs privés, le même cadre que nous formons, chez Seltel, chez Zen, vous allez chez d'autres banques privées, allez voir nos étudiants qui viennent à peine de terminer et qui travaillent bien. Je crois que là aussi, il faut faire la part des choses entre formation et le système de motivation par rapport à cet aspect-là. Et ça, c'était pour, je crois que, demander à tout le monde de ne pas faire l'auto-flagellation parce que nous sommes dans des médias qui sont suivis, les gens, jusqu'à l'étranger comme la bureaucratie, on risque de croire vraiment que ce qui se dit, c'est cela, alors qu'il y a des proportions importantes de jeunes gens qui terminent aujourd'hui et qui utilisent même là-bas comme assistant dans les différents bureaux du Sénat, dans les différents bureaux du Parlement, qui font quand même preuve de bonne formation.
Professeur,
à la question pour ne pas prendre du temps. Si les communes sont érigées en circonscription électorale, pour moi, ce n'est que justice. Parce que vous avez des entités territoriales comme les ETD au niveau rural, qui ont une population inférieure à certaines communes de la ville de Kinshasa, qui sont des circonscriptions avec les communes telles que celles de Ngaliema, avec une population qui a un million d'habitants. La commune de Kinshasa avait 100 000 habitants, qui semble 155 000 et quelque chose. Ce sont les statistiques de l'Institut national des statistiques. Vous voyez que ces communes représentent déjà plusieurs sièges. Si nous prenons la logique de la population, les critères démographiques, alors je me demande pourquoi on doit faire deux fois deux mesures, un critérium pour le milieu urbain et l'autre critérium pour le milieu rural. Deuxièmement, Kinshasa, c'est une ville-province. Alors, si les autres provinces offrent, n'est-ce pas, à la députation nationale, à l'Assemblée, un nombre important de députés, elles qui sont inférieures au point de vue démocratique, Kinshasa, qui a 9 millions d'habitants, qui est statut de province, est découpé en circonscription électorale appelée district.
Merci beaucoup.
Sont supprimés depuis 1958, il n'y a pas de district à Kinshasa.
Merci, professeur. Honorable Minako, quel est votre point de vue à ce sujet?
Oui, je vous donne un point de vue par rapport au découpage de la ville de Kinshasa,
oui.
Mais en commençant par dire d'abord l'absence d'éthique. C'est partout, hein. C'est une question nationale parce que j'ai des exemples au sein de l'opposition. On a choisi des dirigeants, on n'a pas pu choisir des dirigeants suite à des considérations d'ordre éthique.
Alors ne faites pas de l'autoflagellation, comme a dit le professeur Emmanuel Kassongo.
Voilà. Je crois que c'est une question d'options politiques et techniques. Encore que lorsque l'on lit la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. La CENI a pouvoir de découper les circonscriptions électorales. Mais puisque cela va être fait par une autre loi, tel a été le point de vue de la PAJ, voilà, il faut donner un point de vue. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, est une ville, comme Lubumbashi, Kisangani, Kananga. Mais au-delà de cela, Kinshasa est une ville-province, dirigée par un gouverneur. Les circonscriptions électorales au niveau de chaque province, c'est généralement, je dirais même pas généralement, pour les députés, ce sont les territoires et les villes. Donc, il est tout à fait normal, je crois que sous le plan objectif, c'est défendable que les territoires, les équivalents de territoires à Kinshasa, à savoir les communes, soient considérés comme circonscriptions électorales, d'autant plus que Kinshasa a plus de 8-10 millions d'habitants. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, rapidement, c'est quoi ? Pendant l'exercice écoulé, il y a eu plusieurs appréhensions, plusieurs requêtes émanant de différents notables, chefs coutumiers ou autres, de nos communes, qui se retrouvent non représentés. Par exemple, les Bananiringoto, Ngiringiri, ils disent qu'ils n'ont pas de députés. Si on retient la commune comme circonscription électorale, chaque commune de Kinshasa aura au moins 2, 3, 4 députés. C'est aussi objectif, au-delà des considérations politiciennes. Et là encore, les députés de Kinshasa sont contre parce que c'est une stratégie personnelle. Merci. Alors que la loi est générale et impersonnelle.
Honorable M. Sanga, en 2 minutes, parce qu'il va me rester 1 minute pour terminer l'émission.
Oui, je pense que je ne fais pas de l'autoflagellation. Sincèrement, les États, les affaires d'État doivent être traitées sans état d'âme. Et on a fait beaucoup d'états d'âme, on considère que chaque fois qu'on critique, et donc on fait de l'autoflagellation. Le manque, le sens d'éthique, ce n'est pas qu'une question de la majorité, je l'ai toujours dit, je l'ai écrit dans mon livre La Voix du Changement, c'est aussi une question de l'opposition. Maintenant, quand on revient à Kinshasa, je ne pense pas que la question de la densité puisse être une justification pour pouvoir le faire. Parce que sinon, vous avez des circonscriptions comme Kamiji, qui ont un électeur, Kabeya Kamonga, un siège où il y a moins de 50 000 habitants, qui sont néanmoins reconnus comme étant circonscriptions électorales. Et vous avez à côté des circonscriptions comme Djougou, comme Haru, qui ont, ou Beni, qui ont une dizaine d'élus députés. Je pense que si on voulait faire une réforme générale en termes de découpage, on devrait s'y prendre beaucoup plus tôt et pouvoir mieux l'expliquer. Ce qui n'a pas été fait, et là aussi, c'est une caractéristique de cette majorité, de nous amener toujours quelque chose dans la soupe qui est caché et puis que l'on ne comprend pas. Aujourd'hui, il y a une suspicion sur le gerrymandering, c'est-à-dire que chacun veut faire la circonscription peut-être à la taille de ses acquaintances personnelles où il pense que dans cette configuration-là, il aurait beaucoup plus de chances de gagner. Je crois que c'est une réforme dont on pourra parler, mais quand on a le temps, et si on voulait faire ça, ça fait 4 ans que nous sommes là, pourquoi on ne l'a pas présenté ? Donc, les élus aujourd'hui souhaitent, puisque nous sommes au seuil de l'élection, parce que nous parlons de seuil, que l'on puisse y aller sur des bases qui soient claires et connues de tous.
Un mot pour conclure, honorable Sessana.
Non, je pense que cette loi électorale va aller beaucoup plus rapidement comme en 2006, qu'on nous évite les débats inutiles, qu'on modifie la loi sur le scrutin présidentiel parce qu'il faut l'adapter et que le reste puisse aller à l'État.
Professeur Emmanuel Kassongo, un mot également pour conclure.
Je pense que dans un système démocratique où le débat doit continuer, les gens oublient les repères scientifiques. Et aussi, je pense que si on a une position juridique que la majorité est arrivée à l'emporter, il faudra trouver des mécanismes sociologiques, n'est-ce pas, de mettre à l'aise ceux qui ne vont pas se retrouver dans le système.
Merci, professeur honorable Minako. Nous avons déjà atteint la vitesse de croisière en ce qui concerne cette loi électorale. Allons jusqu'au bout et qu'elle demeure une loi générale, impersonnelle et abstraite. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à Jean-Claude Nciala, Patrick Kassongo qui était à la technique, Guy Mathieu, Samuel Fessa, qui ont travaillé sous la supervision de Martin Sebouzangwe, coordination et présentation, Alain Hiroumoussini. Au revoir. Thank you.